Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Merci d'être présents aussi tôt, un matin, un lendemain de jour férié. Voilà, nous allons donc parler de notre travail à toutes les trois, autrices, traductrices, plus ou moins autrices, plus ou moins traductrices. Je vais laisser mes collègues se présenter avant de me présenter moi-même.
Alors, il faut bien que quelqu'un se lance en premier. Bonjour. Moi, je pourrais dire en schématisant que je suis autrice de nouvelles, de textes fantastiques très très courts et traductrice de pavés de fantaisie très 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 longs. C'est-à-dire mon actuel fait 1200 pages. Un petit débutant qui s'appelle Brandon Sanderson, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est vraiment les deux pôles de ce que je fais. Je suis autrice depuis, je dirais, ma première nouvelle est parue en 2000, mon premier livre à mon nom en 2003. Et je suis traductrice à temps plein vraiment depuis 2002. Et c'est vraiment ce que je fais littéralement à temps plein en continu depuis 2002. Et je gagne ma vie principalement avec la traduction tout en continuant à publier à côté. J'ai deux activités, si on me demande avec quoi je gagne ma vie, c'est la traduction plutôt. Voilà. Juste pour citer quelques auteurs que j'ai traduits. Donc ce que j'écris, c'est plutôt du fantastique et plutôt des nouvelles. Actuellement, je me suis dit, je vais finir par me faire un badge ou un CV voix française de Brandon Sanderson, parce qu'en ce moment, littéralement, je travaille que sur lui, tellement il est prolifique. J'ai traduit aussi parmi d'autres auteurs Graham Joyce notamment et Lisa Tuttle, dont j'ai c'est autre chose. J'ai non seulement traduit, mais dirigé un petit recueil de ses nouvelles, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire comme traducteur d'habitude. Je pense que j'ai à peu près couvert le truc. Qui veut rebondir?
Van.
Rebondir.
J'ai pas encore le café.
Ah voilà.
Merci beaucoup.
Bonjour. Donc moi je traduis. Non. Pourquoi je dis ça en premier d'ailleurs?
Je sais pas.
Non, attends, je vais prendre une gorgée de café. Bonjour. Je m'appelle Luvan. Moi je suis. J'écris depuis toujours. Et je traduis. En fait, on m'a invité. C'est Isabelle Varange de Bragelonne qui montait sa collection Milady et qui, à un moment où j'en avais un petit peu ras-le-bol de mon boulot salarié parce que ça me prenait trop de temps, m'a dit tiens, je monte ma collection. Tu veux pas traduire de la bitlit? Et j'ai dit oui. donc on a fait un test et puis ça a fonctionné. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler pour elle. Et puis je trouvais ça rigolo. Et ça me permettait de faire une activité qui était moins schizophrène pour moi que regarde. Sinon j'étais dans des tableaux Excel ou enfin je faisais un peu d'informatique. Enfin, je sais pas, c'est un langage étrange aussi. Hein. Et puis il faut parler avec les informaticiens, ils parlent un autre langage aussi. Non, c'était cool, j'ai vraiment bien aimé. Et après, je me suis mise à faire à traduire. Ça m'a permis de me donner l'énergie de partir de mon boulot salarié. Et puis voilà, mais après, je me suis jamais vraiment identifiée à ce que je traduisais. Pour moi, c'était juste la même chose que mon boulot salarié. C'était une autre façon d'utiliser mon intellect ou mon cerveau et d'avoir des sous. Donc voilà, j'ai jamais mis. En fait, sur ces bouquins-là, j'ai jamais mis le nom de Luvan parce que j'estimais que c'était un boulot. Enfin, je sais pas, parce que pour moi, C'est difficile. Pour moi, la traduction, c'est vraiment quelque chose qui a juste remplacé. C'est un boulot qui a remplacé un autre boulot qui était rigolo, mais voilà. Et puis là, récemment, j'ai traduit un bouquin pour La Volte, c'est pas moi qui l'ai proposé. C'est La Volte qui m'a demandé si je voulais le traduire, parce que je crois que c'était un malentendu, parce qu'en fait, c'est Karin Tidbeck qui l'a écrit, qui est suédoise, et on trouve peu de gens qui baragouinent le suédois. Et moi, c'est le cas. J'ai vécu 2 ans en Suède, donc voilà. Et je m'étais dit, oh, chouette, tiens, pourquoi pas traduire du suédois? Et en fait, il se trouve que cette dame, Karin Tidbeck, que vous verrez peut-être ce soir, que vous avez peut-être déjà vu, a traduit elle-même en anglais son bouquin. Donc en fait, je l'ai quand même traduit depuis l'anglais. Mais là, pour la première fois, j'ai mis mon nom de Luvan. Voilà, parce que c'est la première fois où je me disais, ah, là, il y a quelque chose qui, peut-être éventuellement dans l'écriture, dans l'univers, serait similaire à mon univers d'écrivain. Donc voilà, c'est beaucoup trop long. En fait. C'est pour ça que j'avais proposé qu'on prenne une clepsydre pour. Voilà. Et du coup, par ailleurs.
On donne les détails.
Voilà, c'est ça. Et puis alors, mais sinon, en termes de traduction, moi, contrairement à ce que tu disais, je traduis très peu. Là, j'ai rien de prévu. L'an dernier, j'ai traduit Amatka et un autre bouquin. Et j'ai pas d'horizon de traductrice. Enfin, personne me demande plus de traduire. La bitlit, ça s'est un peu asséché. Voilà. Donc, je demande beaucoup de bourses. Si on me demande à quoi je passe du temps, je passe beaucoup de temps à écrire, me documenter et remplir des demandes de bourse pour avoir des sous. Et puis je fais de la radio, je fais des performances, je fais du théâtre. En fait, j'essaie de faire en sorte de gagner un peu de sous, pas énormément avec ce que j'écris. Donc ça veut dire tout ce qui est... Voilà, j'essaie un petit peu d'utiliser mon écriture pour gagner des sous, hein, comme je peux, quoi. Voilà. Donc si certains d'entre vous ont une traduction à me donner... Là, je viens de traduire pour Google, c'était horrible. J'ai dû traduire du googlien anglais en googlien français, c'était juste affreux. Voilà. Donc, je peux faire ça aussi. J'ai fait un glossaire de googlien français-anglais. Donc, si jamais vous avez du googlien à traduire, je peux aussi. Voilà.
Moi, je suis Sarah Doak. J'ai commencé essentiellement comme journaliste, spécialisée dans la science-fiction, à partir de 1997. Je voulais traduire. Mais j'ai été punie. En 99, j'ai écrit un article pour dénoncer les pratiques de certains éditeurs de l'époque qui avaient l'habitude de couper une partie de la VO pour que les livres aient un certain format, persuadés qu'ils étaient que les lecteurs français ne seraient pas attirés par de gros livres de 500 à 1000 pages. Et donc, pendant 10 ans, on ne m'a pas proposé de traduction du tout. Comme Mélanie, j'ai publié ma première nouvelle en 2000. C'est quelque chose qu'on a en commun toutes les trois. On est d'abord nouvellistes. Le roman, c'est quelque chose qui est venu plus tard. Et dans la traduction, j'ai traduit aussi pour Milady, pour Isabelle Varange, une ou deux séries de Bitlit et puis du Peter F. Hamilton. Et puis j'ai commencé à travailler pour Le Diable Vauvert et j'ai eu la chance de devenir la voix française de Paolo Bacigalupi, avec son premier roman d'abord, qui était La fille automate, puis tous les autres. J'ai la chance aussi d'être la nouvelle traductrice de James Moreau. Donc là aussi, c'est de la bonne science-fiction, bien gros, des gros, gros, gros bouquins, alors que généralement, j'écris très court. Et je suis en train d'écrire mon premier roman. Donc, on passe au long aussi. Comme nous n'avons pas de modérateur, nous avons décidé d'un commun accord de mettre dans cette petite casquette, puisque nous en portons toutes les trois plusieurs, une série de questions auxquelles nous allons toutes répondre. Qui veut piocher la première ?
Moi, j'y vais. Et accessoirement, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques en cours de route, n'hésitez pas à intervenir, c'est aussi vivant si c'est un...
Voilà, vous êtes les bienvenus à participer à notre conversation.
Et comme en plus, il y a des auteurs et traducteurs dans la salle, ils auront peut-être des choses à ajouter aussi.
Et je peux répondre plus courtement.
Non.
Mais pourquoi ?
Si, mais non, parce que...
Une heure de choses intéressantes et passionnantes.
Mais c'était pas très passionnant, je l'ai senti. Mais, coup, juste pour que vous sachiez, si vous posez une question, ça va pas rallonger.
Je tire au hasard pour la faire taire. Alors, lisez-vous avant de traduire ? Qui veut s'y coller ?
Beaucoup de traducteurs ne lisent pas le texte qu'ils vont traduire avant de le lire parce qu'ils veulent être surpris. Ce n'est pas mon cas. Parce que j'ai eu quelques mésaventures dans mes premières traductions où des termes que j'avais choisis en début de traduction se révélaient avoir une signification totalement différente, 300 pages plus loin. Ce qui me demandait un retravail sur 300 pages pour corriger une impression qui était erronée. Donc moi, je lis.
Moi, c'est exactement l'inverse. Disons qu'au départ, commençant de manière consciencieuse, je me suis dit qu'il faut absolument que je connaisse le bouquin vraiment bien pour le lire. Alors maintenant, je mets de côté le cas de figure où je connais pas du tout l'auteur, où je veux me faire une idée et savoir est-ce que je me sens capable de traduire ça. Oui, à ce moment-là, je lis, quand même avant de donner mon avis, parce que sinon, en cours de route, ça peut être compliqué. L'expérience m'a appris qu'en fait, moi, ça ne me sert à rien dans le sens où le livre, en cours de traduction, on va quand même le parcourir et le relire, au moins, je dirais, 5-6 fois. Et que moi, mon premier jet, il consiste à défricher. Justement, je ne fixe pas tellement les termes au début. Pour moi, c'est beaucoup, j'affine au fur et à mesure et les termes sont beaucoup fixés à la fin. Le premier jet, c'est vraiment, je déchiffre le truc. Après, je reviens dessus pour corriger. Et là, je relis à nouveau l'histoire en entier et je repère des détails. Et c'est vraiment, au fur et à mesure, plus j'avance dans les phases de la traduction, de relecture, de correction, plus je découvre finement des détails qui m'avaient échappé. Et je m'aperçois que pour avoir eu à le faire récemment dans un cas de figure un peu particulier, lire avant, pour moi, c'est une perte de temps. Parce qu'en fait, je n'ai pas la même attention aux détails, mais de très très loin, je ne l'ai vraiment pas autant que je l'aurais en cours de traduction. Et parce que finalement, c'est du temps que je prends sur mon temps de traduction ou même de loisir ou autre, et qui ne me fait pas avancer dans le travail, en fait. Donc maintenant, je ne lis avant que si il y a une raison spécifique. Comme récemment, j'ai dû rendre une traduction en deux fois, on avait un accord, et là, j'ai tout lu avant pour être sûr que rien ne m'avait échappé. En deux moitiés, je veux dire. Ou bien si c'est un nouvel auteur et je veux être sûr de me sentir à l'aise avec. Mais sinon, mon expérience m'a dit que pour moi, c'est une perte de temps. Suivante.
Moi, plus, plutôt comme Mélanie, enfin, quand j'ai le temps, souvent, je lis pas parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Parce que chez Bralgelon, j'avais des fois deux mois et demi, j'ai souvent eu des contrats où c'était genre, tu peux me faire ça, tu peux me faire un tiers de bouquin en urgence en un mois et demi. Donc là, non, je lis pas le bouquin avant parce que j'ai pas le temps. Et après, c'est le seul cas de figure où j'ai lu avant. Et puis après, voilà, comme Mélanie, en termes de détails, de toute façon, tu fais un énorme travail en relecture, beaucoup, beaucoup. Donc, le premier jet, c'est comme la transcription, en fait. C'est tu tapes, surtout avec les délais de Bragelon, c'est vraiment hop. Enfin, moi, j'ai deux écrans, donc voilà, ça fait ça. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble ma journée de travail, c'est.
Traductrice au travail, allégorie, ça ressemble à ça.
Ouais, c'est ça. Et puis après, vers l'après-midi, je commence à avoir un coup après manger où je m'endors un peu. Donc, je mets de la musique un peu rythmée. Et du coup, j'ai pas le temps de. Mais alors, après, en relecture, ouais, c'est. Là, c'est plus rigolo. Là, tu peux être sur des sofas, dans des cafés, puis tu relis, et puis tu te dis, ah, mais non, ça, c'est nul. C'est super. Et voilà. Et après, la première fois où je l'ai vraiment lu avant, mais c'est parce que Mathias m'a demandé, tiens, il y a un bouquin suédois, est-ce que c'est bien? Et du coup, voilà, j'ai été obligée de le lire, du coup. Et j'étais obligée de quand même convenir que c'était vraiment trop bien. Et voilà. Et par contre, effectivement, de toute manière, je l'avais lu avant, mais de toute manière, j'étais, oh non, mais ce sera hyper facile. Mais trop simple, quoi. C'est des mots hyper génériques, machin. Et au moment où tu te mets à traduire, tu te dis, ah ouais, mais justement, comment je traduis ce truc-là? En fait, c'est la difficulté, tu t'en aperçois que quand t'es en mode traduction, de mon expérience. Et puis là, des contrats, genre pour faire des sous, genre Google, tout ça, là, c'est je lis pas avant, parce que je sais que si je lis avant, je vais dire non.
Tu lis pas Google avant?
Non. Donc j'ai dit, ouais, ils m'ont dit, tiens, salut, c'est payé en une semaine, tu te feras comme un mois dans la traduction littéraire. Est-ce que ça te dit de traduire? Ouais, ouais. Non, parce que si je lis, je vais dire, non, c'est de la merde. Et puis alors, au moment où t'es en train de traduire, t'es là, non, mais c'est vraiment de la merde. Pourquoi j'ai dit oui? Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils payent 10 fois plus que dans la littérature et que quand même, en une semaine, je me fais comme dans un mois. Et je le ferai plus jamais. Voilà, je l'ai dit devant tout le monde, je ferai plus jamais de Google.
Et moi, j'ai eu une expérience un peu particulière où là, j'ai été obligée de lire, mais vraiment. Là, j'avais pas le choix. C'est que on m'a demandé de traduire les 100 dernières pages d'un bouquin parce que je ne sais pas pour quelle raison le traducteur qui avait traduit le premier volume et qui était en train de traduire le deuxième avait arrêté. Et j'avais 10 jours. 10 jours pour savoir de quoi parlait le bouquin, lire la traduction du premier traducteur et faire ce que, enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les 2 chapitres précédents pour essayer de me mettre dans sa langue et qu'il n'y ait pas de rupture pour le lecteur. Et là, il n'y a pas le choix. Parce qu'il faut vraiment reprendre les habitudes d'écriture d'un autre traducteur pour aller le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas de rupture et finir un bouquin dont tu n'as pas traduit le début.
J'ai eu à reprendre une fois une série en cours de route, c'est très compliqué parce que les termes ont été fixés par quelqu'un d'autre. Et c'est même pas tellement les termes spécifiques à un univers ou des choses comme ça, c'est simplement comment les personnages se parlent entre eux. Est-ce qu'ils se tutoient, est-ce qu'ils se vouvoient? Est-ce que tel surnom s'est traduit de telle manière? C'était un moment où on n'a proposé que ça, donc c'est très bien tombé, mais j'avoue que ce sera à refaire, je le referai pas, je pense. Enfin, sauf si j'ai rien d'autre à ce moment-là.
Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai déjà traduit du commande pour Bragelon, ils traduisent des licences. Et des licences de jeux de rôle ou de MMO ou tout ça. Et c'est rigolo, mais C'est à la fois intéressant et à la fois, enfin, voilà, il y a un modèle économique où il faut que tu sortes le bouquin quand sort le film slash ou le jeu vidéo. Et du coup, je comprends hein, qu'il soit dans cette dynamique-là. Mais du coup, tu dois traduire vraiment très très rapidement et avec plusieurs. Alors, c'est affreux et à la fois très rigolo parce que du coup, affreux parce que ça prend un temps de dingue et très rigolo parce que tu t'aperçois que tu dois justement ces trucs de tutoiement, vouvoiement. Tu dois dire ouais, mais là, elles font l'amour donc elles sont censées se tutoyer. Mais à la fois ouais, mais machine, en fait, c'est ça, c'est son espèce de c'est l'espèce de grande princesse et puis elle c'est une esclave. Donc ouais, alors on va dire qu'elle se tutoie, mais enfin elle se tutoie, mais sauf quand elles font l'amour, mais après pas. Mais non, mais c'est vachement plus rigolo, ce serait du sexe au vous et tout, ce serait vachement bien, machin. Et du coup, t'as des conversations entre traducteurs totalement déments, mais ça fait que ça, je vous les raccourcis, mais en gros, c'est genre 3 jours de discussion sur tout, tu et vous pendant ou après le sexe, tout ça. Et du coup, c'est très marrant parce que tu t'aperçois que tu t'es que d'autres n'ont pas du tout la même façon de penser la vie en général que toi, donc t'es là, mais non, mais bien sûr, c'est vous. Et voilà. Et là, on était 5, je crois, sur ce truc-là. Donc, c'était marrant, l'espèce de chat room de est-ce que vous ou tu, c'est marrant. Du coup, des fois, tu l'as en différé quand tu dois reprendre des traductions d'autres gens, mais des fois, tu l'as pendant. En fait, c'est assez marrant. Et pour ces licences-là, moi, j'ai jamais. C'est très bizarre parce que, par exemple, Assassin's Creed qui est très chouette à traduire, ou Star Trek, j'ai même pas lu le bouquin en entier. Donc, moi, souvent, je fais la première partie. Ce qui est cool, du coup, ça m'amende de lire le reste, parce que finalement, comme je suis la première partie, voilà. Mais c'est rigolo de se dire que, moi, le Star Trek, je l'ai vu au Cinoche, et j'ai compris la fin du bouquin que j'avais traduit, parce que je suis allée le voir au Cinoche. Donc voilà. Mais c'est sympa, c'est juste une autre façon de. Du coup, ça met en avant des principes humains rigolos, quoi. C'est. Je vous propose la question suivante. Écrire, traduire, a-t-il changé votre lecture ?
Je dois dire que oui. Et non seulement ça a changé ma manière de lire, mais ça a changé la manière de lire de mon entourage. C'est-à-dire que je ne suis plus capable de lire un roman, que ce soit un roman français ou surtout un roman traduit, sans avoir des réflexes de traductrice ou d'éditrice. Sans me dire, mais non, mais ça va pas, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon rythme, il y a quelque chose qui manque, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais qui a fait ce boulot de merde, mais l'éditeur n'a pas fait le boulot, il y a des fautes, il y a des trucs. Et vraiment, ça va changer totalement ma manière de lire. Ça ne m'a pas retiré le plaisir de lecture. Mais ça dépend. Il y a des fois où si, où ça interrompt complètement ma lecture parce que j'ai des réflexes de correction, de ça va pas, de je bute, de et parfois c'est assez désagréable.
Moi ça a changé. Je suis moins lectrice qu'avant, mais j'arrive pas à savoir si c'est le fait d'avoir transformé une passion en métier et que du coup on a plus rapport à je me vide la tête après ma journée de boulot, je vais lire. Parce que justement, j'ai passé la journée dans des bouquins, ou dans quelle mesure c'est lié, effectivement, ou dans quelle mesure ça n'a rien à voir, en fait. Il y a une chose qui a changé, c'est qu'effectivement, j'ai de plus en plus de mal, et vraiment beaucoup, à lire des livres traduits. Et c'est pas. Il y a la question des erreurs et des moments où je me dis non, là, ça coince, ou alors cette phrase-là ressemble trop à l'anglais, et c'est. Il y a ce truc-là. Mais une chose dont je m'aperçois avec le recul, c'est que chaque traducteur a sa voix, en tant que traducteur. On parlait des tu, des vous, on a des manières spécifiques d'aborder les choses. Et ça m'est arrivé de sortir d'un livre complètement, alors que la traduction était manifestement très compétente, très habile, certainement excellente. Mais il y avait, par exemple, un truc sur lequel je bute et je ne peux pas le faire en traduction et je ne peux pas le lire. C'est un texte rédigé au passé simple, dans un style où on sent que c'est quand même quelque chose d'assez contemporain et pas du tout un style vieillot, utilisé « nous ». « Nous partîmes »,« nous ouvrîmes la porte »,« nous ». Et je ne peux pas. Ça et des imparfaits du subjonctif. Si le truc n'est pas vieillot, je ne peux pas. Et moi, en tant que traductrice, je me débrouille. Vous pouvez vérifier dans tous les bouquins que je traduis au passé simple, typiquement, prenez Brandon Sanderson, la série Cœur d'acier, c'est à la première personne au passé simple. Il n'y a pas un seul nous dans tout le livre. Je me suis débrouillée pour le contourner. Et les correcteurs m'en ont rajouté. J'ai expliqué que non, en fait, non, pas un seul. Ça colle pas. Le style était trop contemporain. Mais c'est pas une erreur, c'est juste, moi ça, en tant que lectrice, ça me hérisse, j'ai envie de passer le bouquin par la fenêtre. Et j'ai trop la conscience, je pense, au bout de. Ça fait quoi ? 16 ans de traduction. J'ai trop la conscience qu'une traduction, c'est une variation particulière, un regard et une langue parmi des milliers de possibles. Donc ce que je suis en train de lire, c'est pas le livre tel qu'il a été écrit, c'est tel qu'il a été interprété par un traducteur. Et ça, ça me... Alors ça dépend, il y a des traducteurs dont... Il y a un nom qui me vient, par exemple, dans les collègues, il n'est pas là, je peux le dire. Je sais que, par exemple, Pierre-Paul Durastanti, c'est pas simplement que c'est un bon traducteur, je suis en accord avec sa manière de traduire. Quand je lis ses traductions, il n'y a pas un moment, mais littéralement pas un seul, où je m'arrête en disant c'est une traduction, je gêne, ça me gêne. Je sens qu'on est assez raccord là-dessus, et lui, je peux le lire, par exemple. Il y a d'excellents traducteurs que je ne peux pas lire parce que je me rappelle que c'est une traduction. Donc moi, ça a changé ça, en tout cas.
Moi, j'écris depuis que je sais lire, donc du coup, l'écriture n'a pas changé ma façon de lire, j'ai l'impression. Je peux lire... J'ai besoin de lire quand j'écris. Je fais pas partie de ces gens qui doivent couper complètement le. Mais après, effectivement, ce que je lis se retrouve dans mon écriture nécessairement. Il y a même un moment dans Sousto où j'ai enlevé ces parties-là. Mais il y a un moment où j'avais même envie de citer un personnage. Enfin, j'ai cité un véritable personnage d'un bouquin que j'étais en train de lire quand j'étais en résidence. Parce que ce personnage-là m'a beaucoup influencé dans mon écriture, parce qu'on est on est très perméable quand on écrit. Et j'ai voulu envoyer à l'auteur un mail comme ça, un peu fou, en disant est-ce que je peux prendre ton personnage, est-ce que je peux l'emprunter, tout ça. Donc ouais, on est hyper perméable quand on écrit, je trouve. Il faut, si vous écrivez, il faut faire hyper gaffe à ce qu'on lit. En fait, moi, j'ai passé 2 jours entiers à me demander quel bouquin j'allais amener en résidence. Parce que pour moi c'était vraiment ça pouvait être hyper dangereux ou ça pouvait complètement me mettre dans un autre style ou je sais pas, c'était très et à la fois en résidence ce qui est cool c'est qu'il y a des bouquins qui traînent dans les chambres donc tu peux laisser le hasard quand même t'amener une nourriture que t'avais pas un nutriment que t'avais pas prévu d'emporter dans ton sac à dos quoi. Du coup je trouve que l'écriture et la lecture sont très liés. C'est con ce que je dis, enfin, tout le monde le sait, mais je veux dire, c'est très fort en fait. Et alors, ce qui est chouette, c'est que quand j'écris, je lis beaucoup aussi, parce que c'est un temps. Enfin, je vous ai expliqué la mine là tout à l'heure, et quand t'écris, c'est pas. Enfin, moi en tout cas, quand j'écris, c'est pas comme ça. J'écris. Tu réfléchis beaucoup, Enfin, moi, je suis là, debout, je marche. Enfin, c'est autant je peux traduire avec quelqu'un à côté, autant écrire, c'est on dirait un serial killer, quoi. Je parle toute seule, je marche d'un bout à l'autre de la pièce. Je vais dans la cuisine, j'oublie ce que je fais là. Je fais cramer mes compotes. Enfin, on est en mode création, quoi. Tous les gens qui ont une activité créatrice se reconnaissent, quoi.
C'est en train de casser tout le glamour du métier, là.
C'est ça. Non, mais c'est un peu ça. Et alors, quand on traduit, par contre, je suis dans une espèce de bulle, et ça, c'est complètement autre chose. Et alors, quand je traduis, je suis infoutue de lire, tout simplement. Enfin, le soir, je dois m'abrutir devant une série où des fois, j'écoute des trucs, je peux même rien regarder avec mes yeux, parce que c'est un rythme... ça dépend, encore une fois. La Volte, pour Amatka, m'a donné suffisamment de temps, donc ça va. Mais Brajlon, c'est genre 2 mois et demi ou 3 mois. Enfin, c'est vraiment la mine, quoi. Enfin, c'est très chouette parce qu'on pousse les. Ah non, le pire, c'était une fois, j'ai eu tout un film à transcrire et à traduire en 5 jours. À la fin, je pouvais même pas m'asseoir tellement j'avais mal aux fesses, quoi. Je pouvais plus c'était affreux. C'était saucisse. J'ai fait saucisse et saucette, l'édition belge. Ouais. Les seuls avec un jeu de mots débile dans le titre. Et ça, c'était affreux. C'est la première fois de ma vie où j'avais vraiment, je crois. Ah non, ouais, ouais. Et quand vous prenez Euroline ou Flixbus maintenant, c'est genre 24 heures en bus et à la fin, on va pas à la pause pipi parce qu'on se dit qu'on pourra pas se rasseoir tellement on a mal aux fesses, quoi. Et bah, c'était ça. Et du coup, là, voilà. Mais pour la Volte, c'était super confortable. C'est genre, ouais, tu nous fais ça tranquillement en 6 mois. Et ça, c'est génial parce que t'as le temps de revenir. Ça, c'est autre chose. Et du coup, est-ce que ça a changé? Non, je crois pas. J'ai eu trop de copains et de copines cinéphiles, école de ciné, machin, qui t'emmerdent quand tu regardes un film et qui te disent « Ah, mais là, c'est n'importe quoi, c'est travelling. » Donc je m'auto-censure pour pas me faire chier moi-même quand je lis, quoi. Donc voilà.
Non, moi c'est vraiment... C'est devenu une déformation. C'est devenu une déformation et en plus, j'ai des copains écrivains qui m'envoient leurs bouquins... les épreuves et des choses comme ça et parfois je m'énerve toute seule parce que je vois que le travail de l'éditeur n'a pas été fait qu'il y avait un petit, que ça a été fait trop vite, qu'il n'y a pas eu de véritable relecture, de véritable correction. Et là, tu bouillonnes. Tu bouillonnes parce que tu dis, mais ce bouquin, il est vraiment, vraiment bon. Mais il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et... Ah ! C'est pas fait ! C'est quoi ce boulot ? Allez, c'est mon tour. Comment êtes-vous venu à l'écriture ou à la traduction ?
Moi, je vais commencer en deux temps. En fait, la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que vous écrivez, est-ce que vous avez commencé par écrire ou par traduire ? Pour moi, c'est l'écriture, très clairement. J'écris depuis, disons sérieusement, depuis l'âge de 17 ans, mais avant, bon, je bricolais un petit peu. Et je suis arrivée à la traduction un petit peu par, pas tellement par hasard, c'est que j'étais passionnée par la langue anglaise et j'ai fait des études orientées vers les langues. Et on ne nous donnait pas tellement d'idées des débouchés, c'est-à-dire on nous disait, ben, soit tu peux être prof, ce qui, moi, me passionnait pas énormément. Soit tu peux travailler dans une entreprise orientée vers le commerce international, et là, tu pratiqueras l'anglais. Et c'est tout. Donc, comme l'un et l'autre me passionnaient pas, je suis allée voir... J'étais déjà en quatrième année de fac quand j'ai vu un conseiller d'orientation qui m'a appris qu'il y avait des formations spécialisées dans la traduction littéraire ou l'audiovisuel, sous-titres et doublage. Et j'ai envoyé des dossiers pour les deux, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire ma cinquième année d'études à Paris sur la traduction littéraire. Et je trouvais ça génial parce que pratiquant l'écriture et étant passionnée de lecture, moi je lis depuis que je suis petite en permanence, ça me paraissait une bonne idée de concilier du coup la pratique de la langue anglaise et la pratique de l'écriture, qui sont vraiment deux des choses que j'aimais le plus au monde. Il s'est trouvé que ça m'a plutôt bien amusée et que ensuite, sortant de cette formation, bon, j'ai un petit peu galéré, j'ai galéré quoi, 4 ans avant de... J'ai pris un boulot alimentaire pendant lequel je traduisais des nouvelles à droite à gauche pour des revues. Et au bout de 3 ans, je crois, j'ai décroché un contrat qui était chez Bragelonne à l'époque pour un livre de Loïs McMaster-Bujold que j'ai traduit en 2002. Et ça s'est enchaîné, j'ai pas arrêté depuis. Donc moi, c'était vraiment l'écriture et l'envie de pratiquer la langue anglaise qui ont convergé pour me mener vers la traduction.
Moi, j'ai commencé à raconter des histoires quand j'ai commencé à parler. Toute ma vie, j'ai inventé des histoires avant même de savoir écrire. Et je voulais écrire et... Je voulais même être reporter de guerre ou des trucs comme ça, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'en étais absolument pas capable, parce que je ne peux pas être objective et je ne peux pas ne pas être touchée par les événements. Et la traduction, en fait, c'est venu par surprise. J'étais journaliste, j'écrivais des chroniques, j'écrivais des articles, je faisais des interviews, et on m'a demandé, mais tiens, t'aurais pas envie de traduire un bouquin, vu que t'es bilingue et tout ? Ah ben, pourquoi pas ? Et c'est comme ça que c'est venu, et c'est comme Mélanie, j'ai commencé par traduire des nouvelles pour des revues, avant de décrocher des romans.
Moi, je crois que j'avais répondu à ces questions, je pense, dans ma très longue, beaucoup trop longue présentation de moi. Voilà. Donc, j'ai commencé par écrire, et puis là, la traduction, c'est devenu un métier, mais pas forcément, c'est pas sûr du tout, enfin, c'est très précaire pour moi. Là. Voilà.
Mais...
Il y avait autre chose dans le sens de oui, c'est ça.
Mais l'écriture, ça a été quelque part aussi une surprise. C'est-à-dire que j'ai envoyé un mail à un auteur que je connaissais pour lui demander des conseils sur l'écriture d'une nouvelle. Et c'était Jean-Marc Ligny. Et là, il m'a dit, mais écoute, je suis en train de réunir une anthologie de textes sur l'amour et le sexe avec uniquement des autrices. Est-ce que tu veux faire un texte ? Et c'est comme ça que j'ai publié ma première nouvelle. Et en fait, je n'ai jamais dû présenter un texte à un éditeur. On m'a toujours proposé, demandé. Même mon livre Technoferry, c'est André-François Ruault qui a dit « Ah, mais t'as ça, fais-moi un livre. Ajoute des nouvelles, fais-moi un livre, fais-moi un truc, on va faire un dico féerique et tout. » Donc, j'ai jamais dû aller démarcher un éditeur pour l'écriture.
Ah oui, si, c'est parce que oui, je pensais que la question c'est que comment vous avez commencé à écrire, et c'est bon, quand j'ai su écrire. Oui, mais effectivement, par contre, publier, ouais, ça c'est autre chose. Enfin, c'est arrivé. Moi, j'ai toujours beaucoup écrit. J'ai réécrit la Bible en vers. Quand j'avais 10 ans, j'ai écrit un bouquin sur. Je crois que c'était mon premier roman. Non, j'avais 8 ans, et c'était une exploration polaire. Et je me suis fait chier à l'écrire. Enfin, il y a un moment où je me suis dit, mais il se passe rien dans ce bateau, quoi. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce bateau? Et du coup, voilà, mais je suis allée jusqu'au bout quand même. Et à la fin, il y a le pôle et tout, mais c'était un peu ennuyeux. Et après être publié, ouais, je sais pas, je crois que j'ai toujours su que j'étais écrivain, mais après, je me suis dit, oh, ça serait bien d'avoir la validation, tu vois, parce que quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et t'es dit, voilà, t'es écrivain, ah, t'es publié où? Non, mais je suis écrivain, je suis pas publié, il faut être publié. Donc là, je me suis dit, bon, allez. Allez, il faut être publié, donc je me suis mis à faire comme tout le monde fait, à envoyer plein de manuscrits, et c'est les stagiaires deux jours après qui disent, qui répondent en disant c'est très très intéressant votre roman, mais on le prend pas. Oui, mais enfin bon, là, j'ai envoyé le mail il y a deux jours, donc il y a très peu de possibilités que tu l'aies déjà lu. Donc voilà, je suis passée par toutes ces cases-là. Puis en fait, la première fois que j'ai été publiée, c'était chez Oxymore, ouais, parce qu'ils faisaient des appels à texte à l'époque, puis ils lisaient vraiment eux, quoi. Et ils ont fait un super boulot de, enfin il y a plein de gens qui ont commencé dans le fantastique français avec l'Oxymore, et enfin de notre génération, je veux dire. Et du coup, ça c'était bien parce que j'ai été publiée pour de vrai, puis je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien en fait, et voilà. Et puis après, l'Oxymore a mis la clé sous la porte et j'ai arrêté complètement de publier, et c'est Léo Henry qui m'a retrouvé. En plus, voilà, il m'a retrouvé, il avait un autre pseudo sur Facebook, je sais pas, c'est qui ce mec louche, c'est quoi cette espèce de photo trop bizarre. Et après, il a fini par me dire, non, mais c'est moi, c'est Léo Henry, tout ça. Est-ce que t'écris encore? Et donc voilà, il a filé ça à son éditeur Dystopia, Dystopia Workshop, yeah. Et puis ils ont vraiment lu, et puis ils se sont dit, ah, c'est chouette. Et puis voilà, depuis, je peux dire que je suis auteur, tout ça, grâce à un concours de circonstances et Facebook. Je crois que j'ai dit quand même, j'étais censée dire La Volte plein de fois, mais je crois que j'ai dit Google et Facebook, ça ne va pas.
Tu as dit La Volte plusieurs
si, j'ai dit La Volte
plusieurs fois, oui.
Sousto, La Volte. Voilà.
Les espions dans la salle.
Et je crois que c'était ça. Et donc voilà, c'est tout.
Moi, j'avais compris qu'on parlait de comment on avait commencé à écrire, donc je n'ai pas parlé non plus de la publication. On s'est croisés effectivement chez l'Oxymore, on s'est connus chez l'Oxymore d'ailleurs, pour qui j'ai traduit, mais j'avais publié avant ça, donc en 2000. Parce qu'un jour, je suis allée dans un... Ça devait être Galaxie à la Nancy, où j'ai découvert la revue Ténèbres. Il y avait un numéro qui traînait, qui avait l'air bien. Je l'ai acheté. C'était le genre de choses que j'écrivais à ce moment-là. J'écrivais depuis à peu près 4 ans, je pense. Et à un moment donné où, je sais pas, j'ai eu un texte que je sentais plutôt un peu plus abouti que ce que je faisais avant, j'ai décidé de tenter cette revue qui avait l'air bien. Limite en m'excusant dans la liste de présentation, en disant « Non, mais c'est pas tout à fait abouti, non, mais c'est pas pro, mais est-ce que éventuellement vous voulez bien jeter le truc à pas faire ?» Et ils m'ont rappelé quelques jours plus tard en disant qu'ils voulaient la prendre. Sauf que ça n'a pas été pris dans la revue. Ça a été pris dans une anthologie que préparait un des rédacteurs en chef, Daniel Conrad. L'anthologie s'appelait « De minuit à minuit » et elle est parue en 2000. Et ça m'a fait bizarre parce qu'il y avait plein d'auteurs qui n'étaient pas nécessairement de fantastique. Il y avait, je sais plus, il y avait Marie Dariussec notamment qui avait publié là-dedans. Ça me faisait très bizarre de me retrouver là. Et ensuite, bah pareil, j'ai envoyé à plein de gens des nouvelles. J'ai croisé plein de gens qu'on continue à côtoyer chez l'Oxymore, qui a été vraiment une chouette époque. Je pense qu'on se souvient tous qu'il y avait un effet d'émulation, il y avait des parutions. Et c'est drôle parce que la nouvelle qui m'a le plus marqué de ce que j'ai traduit pour l'Oxymore, c'est une nouvelle qui s'appelait Magie des renards, d'une écrivaine qui s'appelle Keith Johnson. Ce texte a été ressorti plusieurs fois et il est dans l'anthologie des Utopiales parce qu'elle est invitée cette année. Et je suis très 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 émue de revoir ce texte paraître parce qu'il m'avait vraiment émue aux larmes en fait, il est magnifique. Donc si vous avez l'occasion, lisez-le. Je vous garantis pas la traduction, mais le texte est magnifique.
C'est moi.
Architecte ou jardinière? C'est plus l'écriture, ça, je pense. Oui. Architecte ou jardinier. Mais déjà, je me perds dans les textes. Alors, architecte, c'est ceux qui construisent vraiment le plan à l'avance, et jardinier, c'est ceux qui découvrent en cours de route, c'est ça? Parce qu'il y a plein de termes pour ça.
Structural et structural.
Bon, j'ai la parole, je la garde, après je vous la passe. Je pense, je suis de plus en plus persuadée que c'est pas aussi catégorique que l'un ou l'autre. C'est que moi, je fais partie des gens qui ont besoin de connaître le déroulement à l'avance. Je suis incapable de me lancer sans savoir où je vais. Par contre, on a l'idée, en fait, dans la représentation des gens, on pense que ça veut dire que absolument tout est contrôlé, tout est réfléchi, tout vient du cerveau, on va dire. Et moi, je suis quelqu'un qui contrôle rien de ce que j'écris. Il faut que c'est des déclics, c'est des choses qui viennent, c'est des choses qui s'assemblent, des images qui me viennent. Je suis incapable de réfléchir un texte, mais je suis incapable de me lancer sans savoir où je vais. Donc je ne sais pas trop quel est le nom entre les deux. Je suis architecte de jardin, je ne sais pas. Pardon ? Paysagiste, c'est pas mal. Je suis paysagiste, voilà. Donc c'est quelque part entre les deux, mais en plus, particulièrement quand on écrit des nouvelles fantastiques, il y a souvent un dévoilement progressif. On tend souvent vers un effet final. Donc pour moi, je ne peux pas me lancer là-dedans si je ne sais pas dès le départ où je vais. Parce que très souvent, l'effet final ou la révélation finale, ou en tout cas ce vers quoi je tends, c'est contenu dès les premiers mots du texte. Et pour ça, il faut moi que je sache vraiment précisément où je vais pour pouvoir semer des petits cailloux au début du texte et progressivement aller vers l'endroit où je veux amener le lecteur. Voilà, je cède la parole.
Moi, j'ai vécu avec un véritable jardinier qui ne préparait rien, ne notait rien et travaillait vraiment au fil de son imagination. C'est très impressionnant, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a tous ses mondes, toute son histoire dans sa tête, pour des bouquins de 500, 800 pages. Pour les nouvelles, je sais de quoi je vais parler, et je me lance, et c'est au fil de la plume. Et je me suis rendu compte, par contre, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, que là, j'avais besoin de préparer un petit peu. Donc j'utilise la méthode des post-it, avec voilà, le déroulement au fur et à mesure, sans aller jusqu'à la fin, je fais au fur et à mesure. Et ce qui est bien avec les post-it, c'est qu'on peut les changer de place. Et se dire, ah ben non, mais ça, finalement, j'en ai parlé à tel moment, donc je l'enlève, je mets ça à la place, etc. Et je me suis rendu compte, voilà, mais pour écrire long, j'avais besoin d'un fil conducteur, j'avais besoin de savoir petit à petit ce que j'allais faire, sans savoir déjà exactement comment ça allait finir. Donc, à nouveau, c'est entre les deux.
Ouais, je crois que c'est un peu difficile. Moi, ça dépend des projets. Parce qu'en fait, souvent, bah, par exemple, là, mes deux derniers bouquins, c'était Few of Us chez Dystopia et puis Sousto chez La Volte. Et en fait, Sousto, c'est un long roman. Enfin, je voulais faire une fresque urbaine. Donc, du coup, ça implique plein de personnages, plein de timing où il ne faut pas te planter. Faire comme dans le cinéma Z où dans le même temps il pleut et puis de l'autre côté de la ville il fait beau, où c'est le jour et la nuit et puis tu te trompes un peu et puis tu voilà. Du coup, faut un peu ça demande quand même pas mal d'organisation pour pas te planter. Mais j'ai écrit Few of Us en même temps, c'est des nouvelles, parce qu'en fait c'est tellement dur de se mettre dans un cadre et de pas en sortir. Enfin, moi en tout cas, tu peux toi-même t'ennuyer dans tes propres plans, en fait. Moi, en tout cas, pardon. Moi, je m'ennuie facilement dans mes propres plans. Donc, par exemple, typiquement, une activité qu'on fait quand on est écrivain à temps plein, c'est faire des dossiers de demande de bourse. Et c'est hyper pénible, parce que une fois que tu fais ton dossier CNL, moi, limite, j'ai presque plus envie de l'écrire, parce qu'en fait, j'ai tellement épuisé la réserve de plaisir, de surprise, j'ai tellement expliqué le truc. C'est comme quand on est gamin et qu'on installe des maisons pour des figurines, et puis une fois que ta maison, t'as tellement pensé à ce qui pouvait se passer que c'est presque un peu emmerdant de jouer véritablement, quoi. Bon, d'autant que ça t'a pris toute la journée et qu'après ta mère vient pour dire qu'il faut quand même ranger le salon. Mais au-delà de ça, des fois, tu t'ennuies toi-même avec tes cadres. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que dans le même temps, quand j'écrivais Sousto avec un plus ou moins un cadre, enfin oui, comme vous avez expliqué, c'est un peu toujours le même. Je crois que quand tu écris, la plupart du temps, t'es tout le temps cerveau droit, cerveau gauche, tout le temps. En fait, tu fais une espèce de tu fais tout le temps ça, je crois, en fait. Donc, parce que tu laisses aller des trucs, après quand tu relis, c'est plutôt ton intellect qui doit dire faire des choix, etc. Donc je crois que t'es tout le temps en train d'utiliser les deux. Mais c'était trop long, enfin, au bout d'un moment, t'as envie d'autres personnages, d'explorer d'autres univers, et t'as envie juste de faire sortir un truc, quoi. Et du coup, si jamais vous vous sentez bloqué dans un... Et après, ouais, j'ai écouté... sur France Culture, il y avait une émission qui expliquait comment fonctionnait le cerveau quand tu... Alors du coup, il y a un cerveau qui est le cerveau... Par exemple, les rappeurs, quand ils improvisent, c'est pas du tout la même... non seulement c'est pas le même endroit du cerveau qui fonctionne, mais ils doivent... quand ils créent, que quand ils disent par cœur. Et en fait, quand ils créent, non seulement le cerveau qui gère la raison, l'intelligence, etc., n'est pas utilisé, mais il doit être bloqué. C'est-à-dire qu'ils bloquent leur... Et c'est pour ça que moi, quand je suis en création à fond, quand je suis en train de... Depuis que j'ai quitté mon boulot salarié, je suis infoutue de faire du calcul mental. C'est un truc hyper bizarre, alors qu'avant j'étais dans des tableaux Excel et tout. Et en fait, cette émission de France Culture m'a fait comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, tu bloques, pour être dans la création, il faut que tu bloques l'autre côté. Et ce qui est très compliqué quand tu, comme discipline à acquérir cérébrale, c'est que quand tu crées, bon, tu dois rester quand même la chef de toi. Tu peux pas te perdre. Si tu te perds complètement dans ton cerveau irrationnel, enfin, je sais pas comment on appelle ça, parce que voilà, après, c'est pas mon truc. Tu peux te perdre en fait. Tu peux aller vraiment très loin. Enfin, c'est pas du LSD, mais je veux dire, tu peux aller très loin dans je plane complètement. Et c'est les allers-retours que tu dois faire, quoi, qui sont vraiment compliqués, je trouve. Et ça, c'est vraiment dur à faire. Et ça, par exemple, typiquement en traduction, pas du tout. C'est pas du tout cette zone-là créative du cerveau qui est utilisée. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. T'as pas cette espèce de fourmillement derrière les yeux, ce plaisir. Enfin, moi, quand j'écris, j'ai mon cœur qui bat plus vite. Je sens comme une sorte de fourmillement derrière mes yeux. J'ai un vrai plaisir d'avoir découvert le bon mot. C'est comme quand on tue le boss dans un jeu vidéo, quoi. Je me dis, ouais, cette phrase, c'est exactement ça que je voulais écrire. Et ça, c'est un plaisir que en traduction, t'as pas. T'as une satisfaction, t'as pas un plaisir. C'est pas de ce domaine-là. Et en tout cas, du coup, c'est l'aller-retour entre les deux principes, je trouve, c'est super marrant à observer.
Moi, j'ai trouvé une solution pour pas m'ennuyer. En ayant préparé un truc, c'est que je fais un récit en tresse, donc j'ai plusieurs intrigues. Et quand il y en a une qui m'ennuie, je passe à l'autre. Je change de personnage, je change de situation, je change. Et donc ça m'aide. Mais il y a des gens, je connais des autrices et des auteurs qui détaillent tout, chapitre par chapitre, paragraphe par paragraphe. Et je me demande comment ils font pour ne pas s'ennuyer. Pour ne pas passer à autre chose tout de suite, parce que tout est déjà fait. C'est fini. Ça devient de la rédaction.
On place pas le plaisir au même endroit tous les uns les autres, et c'est ça qui fait qu'on n'a pas les mêmes méthodes. C'est un truc qu'on met souvent longtemps à comprendre en apprenant l'écriture ou en découvrant. C'est à quel point il y a des méthodes différentes et des choses qui fonctionnent pour les uns les autres, et qu'aucune méthode d'écriture, par exemple, n'est absolue. Et ça peut paraître une évidence dit comme ça, mais on met souvent longtemps à comprendre qu'on place pas justement les compétences, le plaisir, etc., tous au même endroit.
Par exemple, je ne peux pas, je traduis à l'ordinateur, je n'arrive pas à écrire autrement qu'à la main. Parce qu'il y a justement ce plaisir profondément sensuel et cette joie et cet enthousiasme de l'écriture qui est pour moi exacerbé par la sensualité de la plume et du papier et de...
Du coup, là, c'est revenu plusieurs fois. Une des différences entre la traduction et la création, c'est que la traduction, elle est financée, ou en tout cas, il y a un tarif à la ligne ou à la page ou au mot. Là où la création, c'est souvent beaucoup plus aléatoire. C'est hop, si le bouquin est best-seller, bon, bah, ça fait plein de sous, mais on ne sait pas au départ. Ma question est si jamais la création était financée, est-ce que vous continueriez à traduire ?
Alors moi, oui, vraiment très clairement. En fait, ça dépend. Certains font la traduction comme un choix, je dirais, alimentaire, effectivement, parce qu'à côté, ça rapporte pas grand-chose. Moi, je suis pas quelqu'un de très productif, et pour moi, il y a un stress à l'idée de devoir produire. Je suis quelqu'un qui, dans mes bonnes années, pour moi, j'ai trois idées de nouvelles. Trois idées de nouvelles, ça va pas très loin. Donc déjà, de base, l'idée d'avoir quelque chose qui soit un socle de travail moins stressant pour moi, j'aime bien cette idée. J'aime bien le côté mécanique de la traduction, c'est qu'il n'y a pas cette peur de se retrouver sans rien, il n'y a pas la peur que les idées viennent pas. C'est mécanique dans le sens où le livre, il existe. Au pire, une journée où je suis pas inspirée, je prends le bouquin, je regarde la première phrase, je fais une transposition approximative en me disant « bon, c'est pas tout à fait ça, mais j'y reviendrai ». Je prends la deuxième phrase, je transpose. Il y a un truc très mécanique que je trouve beaucoup moins angoissant. Donc moi, j'aime bien l'idée d'avoir un métier qui ne repose pas à ce point sur la nécessité de produire quelque chose. Ça, je trouve ça terrifiant, personnellement. Donc, en plus, il y a des moments où on a tous maudit notre boulot comme on maudit n'importe quel boulot dans un bureau ou autre. Je dis pas que des fois les bouquins, on n'a pas envie de les passer par la fenêtre. Mais il y a un plaisir, il y a un vrai plaisir de traduction, c'est pas juste alimentaire.
Moi j'adore ça, j'adore traduire. J'adore me mettre dans la tête de l'autre et essayer de comprendre pourquoi il a choisi tel mot plutôt que tel autre. J'adore cette sensation de transposer une partition de piano pour une trompette. Trouver la manière de transmettre la musique de l'auteur, le son du texte. Oups. Et c'est absolument, c'est fascinant, j'adore ça. et ça nourrit totalement mon écriture. Traduire m'a appris à écrire long. Je suis nouvelliste à la base, j'avais très très peur du long, mais traduire des romans de 500, 800 pages m'a appris comment on structure, comment on construit un roman.
Moi, honnêtement, je sais pas, en fait. Voilà. Je traduirais plus Google, ça, c'est sûr. Après, là, justement, le boulot que j'ai fait sur Amatka m'a vraiment plu, parce que, en fait, je crois que ça dépend. Je crois que, si je pouvais que écrire, ben, j'en sais rien, parce que, en fait, j'aime beaucoup lire aussi en anglais. Et là, par exemple, j'ai lu récemment là, 4 bouquins, mais juste incroyables, et ils sont pas traduits. Et je me dis, ah, ça pourrait être trop chouette, mais à la fois je suis pas encore prescriptrice. Enfin, je peux pas vraiment. J'ai jamais proposé une traduction à un éditeur, donc peut-être cette table ronde va me donner le peps d'essayer. Parce que là, il y a vraiment 3 chefs-d'œuvre que j'ai lus et je me dis, mais c'est trop bête que les gens qui sont pas à l'aise avec le français puissent pas les lire. Donc, mais après, ça peut être chouette de se dire, tiens, c'est un projet un peu à côté, comme un blog, parce que par ailleurs, je fais pas mal d'autres trucs. Donc, je fais de la radio, je fais de la scène, tout ça. Je crois que ça m'alimente beaucoup. Je sais pas. En fait, moi, ce qui me dérange dans la traduction telle que je la pratique pour manger, c'est qu'il y a une deadline, quoi. Si je me disais, ah tiens, et si je traduisais, je sais pas, enfin, moi, ça me fascine les gens dont l'œuvre de la vie, c'est de traduire Dante, et puis ils passent 10 ans de leur vie à traduire c'est la Divine Comédie, je trouve ça génial. Ça me plaît dans l'idée d'avoir. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Je crois que c'est ça. Hein, c'est...
Mais bon, moi, je dois dire que j'ai aussi la chance de traduire des auteurs que j'aime, des textes que j'aime, et des gens avec qui je m'entends bien, et donc avec lesquels je peux travailler. Et ça change beaucoup de choses. Vu l'heure, nous allons cesser de piocher dans cette casquette et vous proposer de nous poser des questions.
Oui. Ah, pardon. Plusieurs questions. Il y avait 2 questions, en fait.
Bonjour. Alors, j'aurais en fait 15 000 questions à vous poser, donc il faut que j'en sélectionne juste quelques-unes. 2 qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Est-ce que vous arrivez, ou est-ce que c'est une volonté de traduire après avoir écrit, ou d'écrire après avoir traduit dans la même journée, par exemple? Ou est-ce que vous fonctionnez par session? C'est-à-dire, cette semaine, je me consacre à la traduction et je ne suis pas en mesure d'écrire. Et comment est-ce que ça s'organise, en fait, sur la partie écriture, la partie traduction? Est-ce que vous arrivez à concilier les deux dans un même temps ou pas? Et puis la deuxième question, sur la question du nom de plume, du pseudonyme. Je crois que c'est Louvain, vous en parliez. Est-ce que pour Sarah et Mélanie, vous avez eu aussi cette tentation de séparer clairement votre identité de traductrice et d'autrice?
Moi, je peux répondre pour les. Alors, séparer, non, mais pour aucune activité. Moi, je considère que tout ce que je fais peut se nourrir. Enfin, je sais pas. C'est la même personne qui fait tout. L'idée de changer de nom pour l'un ou l'autre ne m'a jamais traversée. D'autres ont plein de raisons de le faire. Moi, l'idée ne m'est jamais venue. La question, c'était faire la même chose dans deux. Non, pour moi, c'est vraiment distinct parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie l'un et l'autre. En plus, je suis quelqu'un qui écrit très peu. Et quand j'ai une idée, en fait, j'écris très peu parce que j'ai peu d'idées. Et quand l'idée est là, il faut que je l'écrive assez vite. Donc, en général, je me débloque plusieurs journées spécifiquement pour écrire. Et ça me stresse tellement que je préfère ne pas me rajouter en plus le stress et la fatigue de la traduction en plus. Par contre, le fait d'avoir la traduction derrière qui attend et la partie financière et les délais à tenir font que je m'oblige à écrire quand même relativement vite. Je peux pas passer sur une nouvelle, je peux pas y passer un mois parce qu'un mois, ben, la nouvelle, elle va me rapporter quoi pour un mois? Elle va pas me rapporter ce que me rapporterait la traduction pendant un mois. Et en plus, j'ai certainement un délai de traduction à tenir. Donc, j'essaie de m'obliger à ne pas passer trop de temps sur l'écriture quand même. En tout cas, sur la rédaction pure, parce que la traduction attend derrière. En même temps, comme je fais des textes courts et que j'en fais pas beaucoup, ça tombe plutôt bien. Mais pour moi, ce sont vraiment des journées qui sont attribuées à l'un ou à l'autre. Et c'est toute mon énergie orientée vers l'un ou l'autre. Qui veut enchaîner?
Pour la question. Oui. Je suis d'accord avec toi. C'est toujours moi qui écrit des articles, qui traduit, qui écrit. Donc, je n'ai jamais eu la tentation de prendre un pseudonyme. J'ai eu un moment ou un autre la tentation de prendre un pseudonyme masculin pour pouvoir dire des choses atroces. Et puis, ça m'est passé. Et comme toi, je peux pas, dans la même journée, faire les deux. Mais par contre, je peux organiser ma semaine pour avoir des journées où je traduis et des journées où j'écris.
Pour l'organisation, dans une journée, pour moi, c'est pas possible. Et quand j'écris un roman, c'est pas possible non plus dans la même semaine ou dans le même mois. Le roman, je dois vraiment avoir, je dois vraiment avoir du temps devant moi. Mais par contre, j'écris de la poésie, j'écris pour la radio, j'écris ça. Je peux me dire, le vendredi, je vais écrire ou le jeudi, je vais écrire. Donc ça marche, mais pour des petits projets. Et puis pour le pseudo, je vous ai répondu déjà, je crois, sur le fait que. Mais j'ai même un autre pseudo. J'ai traduit une romance et j'ai un pseudo romance. Enfin, j'ai un seul. Et puis voilà. Puis là, j'aimerais bien avoir d'autres pseudos. De toute façon, j'ai déjà.
Schizophrène, va.
Ouais. Non, j'aimerais bien écrire de la. Ouais, non, je sais pas. Est-ce que Adam Owen, ça vous dit quelque chose ? Est-ce que c'est joli ou pas ?
Oui.
Ok. Donc il y aura peut-être un pseudo Adam Owen.
Il y avait une autre question, je crois, en fait. Voilà.
Et ce sera sans doute la dernière. À moins que.
Oui, ma question s'adresse surtout à Mélanie et à Sarah. À force d'avoir traduit des milliers de pages de Sanderson ou de Basilia Lupi, est-ce que votre propre style en a été transformé d'une façon ou d'une autre ?
Alors, moi non, il y a eu des influences d'autres choses. C'est plutôt quand j'ai traduit Graham Joyce, j'ai appris des choses en traduisant Ligne de vie que j'ai retrouvées dans ma nouvelle d'après. Mais c'était un travail sur le style et sur des passages qui avaient un style un peu incantatoire. Et ma nouvelle suivante, à ma grande surprise, j'ai retrouvé un peu ça dans ce qu'il y a eu. Bah, Sanderson, il y a un avantage très net, c'est qu'il a des univers qui sont à des lieux des miens. Et j'aurais jamais imaginé, il y a 9 ans, quand on m'a confié Le premier fils des brumes, que j'allais me prendre au jeu à ce point-là, parce que sur le papier, j'aurais pu penser que c'était pas mon truc. Et j'aurais jamais imaginé que je me serais autant amusée à traduire des mots, enfin, et arracher les cheveux, à traduire des pages, des bouquins qui font quand même 1000 pages, ou à inventer des néologismes par centaines. Ou... Je suis la première étonnée de à quel point ça m'a amusée. Et ça me fascine parce que moi, je suis pas du tout une créatrice d'univers. Ça me fascine de rentrer à l'intérieur, de les mains dans le cambouis, de quelqu'un qui a une création d'univers aussi fine, et particulièrement sur les archives de Rochard, qui sont sa grosse série. Il y aura 10 livres à terme de chacun 1000 pages. Je vous laisse imaginer l'ampleur du truc, qui est vraiment un travail de création d'univers. C'est génial à faire, c'est génial à observer. Je me fais beaucoup de frayeurs, mais jamais j'écrirai quoi que ce soit qui se rapproche de ça de près ou de loin. Donc l'avantage, il ne peut pas y avoir d'influence. Et à la limite, j'ai traduit quelqu'un qui avait déjà influencé mon écriture, c'était Lisa Tuttle. Mais je l'ai traduite parce que, justement, elle avait eu cette influence sur moi. Et ça s'est fait plus dans ce sens-là.
Basilia Lupi n'a pas changé ma manière d'écrire. Ou peut-être l'a exacerbé, parce que nous avons un style qui est proche, une musique qui est assez proche. Et donc, ça a exacerbé ma musique pour me différencier. Mais, et en même temps, oui, de toute façon, ce sont des sujets qui m'intéressent énormément, et on peut le voir avec Technoferry, et en même temps, il n'y a rien de Basilia Lupi dans ce que j'écris. Une dernière question ?
Bonjour. Quand vous traduisez deux auteurs différents, est-ce que c'est difficile de ne pas laisser transparaître votre propre style et le retrouver en fait au travers des deux livres d'auteurs différents que vous avez traduits ?
Non. Non, parce que chaque auteur a sa musique, a sa voix, et ça se lit dans le rythme des phrases, dans le choix des mots, dans la manière de la structure. Et en tout cas, pour moi, ça m'est impossible.
Mais pour moi, la question, en fait, se place ailleurs. On nous pose souvent cette question, on nous demande souvent, est-ce que vous n'êtes pas tenté de réécrire à votre manière, ce qui n'a rien à voir, en fait, avec la pratique. Laisser émerger son style, je pense que, comme je disais tout à l'heure, on a chacun un style de traducteur quand même qui transparaît. On a quelque chose de personnel qui fait que si on nous donne à toutes les trois le même texte, aucune des trois n'en fera la même chose. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là, mais qui est inconscient, je dirais. Pour moi, la question, elle est plutôt, est-ce que dans l'éditeur qui nous a donné le texte, est-ce qu'on nous a donné un texte avec lequel on est en phase ? Il y a des éditeurs qui réfléchissent en termes de... Je crois que c'est Gilles Dumay qui parlait de binôme auteur-traducteur. C'est d'essayer d'associer quelqu'un pour un auteur donné, chercher un traducteur avec qui il y aura une affinité. C'est-à-dire que moi, il y a des auteurs dont j'ai eu du mal à rendre le style parce que j'adorais... je pensais à Clive Barker, par exemple. J'ai traduit un texte de lui, je suis en admiration béate, mais je sens que d'autres personnes auraient été plus à l'aise que moi pour le faire. Alors que Sanderson, j'aurais jamais cru que ce serait mon truc. Je me pose même pas la question, je sens son écriture d'une certaine manière et elle rejaillit toute seule. La question est plutôt, est-ce qu'on m'a donné des auteurs qui sont suffisamment en accord? Et si je suis suffisamment en phase, je pense que naturellement je vais rendre quelque chose qui ressemble à la voix de l'auteur. Si je le suis pas, ça va être plus compliqué. Mais je pense que la question se pose en amont. Est-ce qu'on m'a donné le bon texte? Est-ce que je suis la bonne personne pour ça? Et ça va se faire naturellement, je pense.
Mais par exemple, votre façon de... Vous parliez du passé simple, la façon dont vous l'utilisez. Est-ce que ça, c'est pas reconnaissable entre la traduction de deux ouvrages?
Eh ben, c'est précisément ça que je disais. Si on donne la même, enfin nous trois ou les autres traducteurs qui sont planqués dans la salle et qui se cachent, on nous donne le même texte. Juste précisément, on n'en fera pas la même chose. Et précisément, je parlais du passé simple parce que moi, je l'associe dans certains cas à quelque chose qui peut être un peu vieillot. Et parfois, je vais aller naturellement vers le passé composé ou même vers le présent, là où un autre traducteur dira « Ah non, pour moi, le passé simple est plus naturel ». Et c'est aussi en ça que l'éditeur connaît notre travail, sait vers quoi on tend et va estimer que c'est plus en phase.
Mais je crois qu'on est assez nombreux à ne pas supporter le passé simple, surtout.
Ça dépend avec
au quoi. Nous.
Ouais, surtout au nous, à la troisième personne. Nous.
La troisième personne, c'est insupportable.
Mais c'est en ça que je disais, deux personnes, deux traducteurs ne feront jamais la même chose et ça tient à ce genre de détail justement. Et c'est aussi dans le choix de l'éditeur de dire bah, je le sens pour cette personne-là ou pas. Il me semble que ça joue là un peu aussi. Je sais pas si t'as...
D'accord. Bon, vu l'heure, c'était la dernière question. Nous vous remercions d'avoir été là à 1h06 matinale. Merci beaucoup. Voilà.